Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les deux premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de jeudi du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, Olivier de Scooter, en train de changer de salle d'enregistrement, mais qui est toujours là. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Et pour continuer notre semaine, notre invitée, Sandra Zeffer. Salut Sandra.
Salut Hermano.
Sandra, donc on l'a compris, tu es entraîneur triathlète, enfin avec le brevet BF4 pour les Français. Tu es revenu rapidement avec nous hier justement sur le détail de cette formation qui a duré une dizaine de mois, qui implique aussi des heures de pratique. T'as l'avantage d'être à la frontière entre la France et le Luxembourg, donc tu travailles aussi bien avec le Krebs, enfin t'as fait ta formation avec le Krebs de Reims, mais aussi avec un petit peu de participation avec la Fédération luxembourgeoise de triathlon. Comment s'est terminée cette formation et puis justement cette collaboration entre les différentes ligues, les différentes régions, les différents pays, comment ça se passe?
Écoute, ils se connaissent tous, tous les entraîneurs nationaux qui se côtoient très fréquemment sur tous les challenges, bon, surtout en France, c'est les Luxembourgeois courent surtout en France, donc ils se connaissent tous, donc il n'y a aucun problème, il y a une super ambiance, les entraîneurs, les encadrants, personne ne se prend la tête, il y a une bonne communication. Donc ça a été assez facile en fait de pouvoir aller d'un pôle à un autre, ils communiquaient entre eux, ils communiquaient avec moi, donc il n'y a jamais eu de... J'étais vraiment très très contente de tous les rencontrer.
Et aujourd'hui du coup tu travailles en club, mais tu travailles aussi, tu accompagnes des athlètes individuels, enfin en dehors du club.
Je travaille plus en club parce que le club dans lequel j'étais, il a battu un peu de l'aile, le président a fait un peu n'importe quoi, donc le club a été dissous. En parallèle, comme je me suis lancée d'autres chose, j'ai pas trop nourri ce besoin d'aller vers un club, je me suis dit que ça viendra plus tard. Donc pour l'instant, non, j'ai pas voulu re-signer dans quelques clubs que ce soit. Donc pour l'instant, moi, je me concentre sur des athlètes privés. Comme ça, je peux mettre en place des choses, voir un peu les résultats, à un niveau plus intime, en fait, que tout de suite sur du club. Pour l'instant, voilà, moi, les clubs, c'est pour plus tard.
Et quand tu coaches, alors, parce que bon, je pense qu'il y a plusieurs écoles, on en a déjà parlé un petit peu sur le podcast, il y a plusieurs écoles en termes de coaching. Ça se passe comment? Tu leur donnes un plan d'entraînement une fois par semaine, une fois par mois?
Alors, moi, je travaille en périodisation par cycle et sur de l'entraînement polarisé, si c'est des choses que vous avez l'habitude d'entendre ou non. En général, c'est des cycles qui font entre 4 et 6 semaines, dépendamment de la période de l'année. Plus je vais me rapprocher de l'objectif, plus je vais un petit peu resserrer les cycles pour voir ce qui va pas et puis pour pouvoir rattraper sur un autre cycle. Et avec un travail justement sur le pic de forme, en fait. Je vais simuler plusieurs pics de forme, essayer de les amener à ça plusieurs fois sur des cycles pour pouvoir être bon pour l'objectif. Donc là, j'en ai un qui va faire un 100 km, un trail de 100 km. Donc là, on attaque le dernier cycle, qui ce sera 2 cycles de 3 semaines, en fait, avec affûtage, etc. avant. Moi, ça les réussit bien, en général, parce que la charge de travail évolue. C'est pas quelque chose de redondant. On peut se permettre de faire des très 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 gros volumes à certains moments du cycle et des choses plus légères à certains autres moments. Et ça leur fait du bien dans leur tête. Ils savent, il y a des moments où on travaille beaucoup beaucoup, il y a des moments où on relâche un peu. Et eux, ils arrivent mieux à gérer leur volume de cette manière-là. Donc moi, je travaille comme ça.
Alors, tu parlais tout à l'heure d'entraînement polarisé. Est-ce que tu peux revenir dessus pour ceux qui ne connaîtraient pas parmi nos auditrices et nos auditeurs?
Alors, l'entraînement polarisé, c'est sur l'athlète d'endurance, on va travailler à 80% le volume total en dessous de SV1, du seuil ventilatoire 1 cardiaque, et on va travailler grosso modo 5% à VMA et 15% au-dessus de VMA. Donc ça, c'est l'entraînement polarisé. Ça nécessite forcément une adaptation dans les plans, où si on fait 80% de volume en endurance, ben faut varier aussi, faut bien adapter, etc. Et ben par contre, quand on va travailler de manière très très pertinente. C'est un peu comme ça que ça s'organise.
Alors du coup, tu parles de travailler dans certains seuils. J'imagine que ça sous-entend aussi d'avoir des éléments de mesure, de quantification des seuils. Donc qu'est-ce que tu demandes à tes athlètes? Est-ce que tu leur fais faire des tests, toi, je sais pas, en présentiel, ou tu leur demandes demande d'aller faire des tests en laboratoire, comment ça se passe?
Alors, tout dépend de l'âge, de la pratique, etc. À partir d'un certain âge, je connais très bien un cardiologue dans le coin chez nous, là, avec lequel j'aime bien travailler, et je leur fais faire un test d'effort sur vélo. Le cardio me file toutes les zones, en tout cas, de PMA, hein, donc j'ai les seuils cardiaques qui sont calculés. Je peux leur faire faire aussi un test VMA sur piste, et après moi je calcule la VO2 max par rapport à ça. Donc tout dépend en fait de l'athlète, de son objectif, de l'âge, du type. C'est et puis ben finalement aussi du comment de qu'est-ce qu'il prépare. Je veux dire, quand on prépare un 10 km, un petit test VMA, je trouve que c'est suffisant. Après, voilà, sur de l'ultra, de l'iron, bon, là, on commence à rentrer vraiment dans des choses assez compliquées. Donc là, il faut vraiment, au début de la saison, en septembre, octobre, on prend un rendez-vous chez un cardio. C'est pas compliqué. Et puis on fait les tests. Et puis, on est bien, on est parti pour la saison, quoi.
Du coup, tu reproduis ces tests dans le courant de la saison avec l'évolution, on espère, positive des différents seuils.
Alors, tous les trois mois, je fais normalement des tests VMA, j'en fais dans l'eau, j'en fais le fameux test de 400. Hein. Donc on commence la saison avec un test de 400, on voit comment on le gère, on voit le temps, et puis tous les trois mois on se refait un 400 pour voir un petit peu où on en est, comment on a progressé, etc. À pied, un petit test VMA, donc moi je travaille avec le Vosna, le test du sifflet tous les 100 mètres. Ça me permet en fait de voir exactement quand ils s'arrêtent et où ils sont, etc. Et après sur le vélo, je les accompagne pas forcément toujours, ils ont pas forcément tous un home trainer, enfin bon, c'est des fois un peu compliqué, mais je leur demande de faire des tests généralement sur du seuil à 10 minutes, 15 minutes, enfin à voir un petit peu ce que je peux mettre en place à ce niveau-là.
Tu peux revenir sur le test Vosna?
C'est un test en fait un test VMA. Vosna, c'est Monsieur Vosna hein, qui l'a mis en place, qui permet en fait, donc sur une piste de 400 mètres, on met des plots tous les 50 mètres, on siffle tous les 100 mètres, et puis ben, en fait c'est un test où on commence à une allure, un exemple, on va commencer à 9 km/h, le coureur en question va courir pendant 3 minutes à 9 km/h, et moi je vais siffler. À chaque fois, j'ai une bande son hein, que je télécharge au préalable. Je vais siffler tous les 100 mètres pour savoir s'il est au bon endroit, à la bonne allure. Et une fois que les 3 minutes sont terminées, on s'arrête une minute. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'il crame. La VMA sera déterminée au moment où, si on arrive à 17-18 km heure, eh bien, on cramera à un moment. Et puis par rapport à ça, à chaque fois qu'ils arrivent, moi je prends leur pulsation cardiaque à l'arrivée de chaque tour de 3 minutes. Ce qui me permet après de faire en fait une échelle rythme plus cardio et à partir de ça, je peux calculer la VO2 max.
D'accord.
C'est pas mal, hein.
OK. Et donc tu disais que tu les encadrais pendant les tests, tu les accompagnes aussi à d'autres moments ou bien c'est vraiment juste pendant les tests?
Non, là je les accompagne pendant le test. J'accompagne plus facilement sur la natation parce que tout le monde n'a pas forcément les bons gestes, etc. Donc il va y avoir plus de séances finalement où j'accompagnerai en natation pour oui. Recadrer. Et puis en natation, des fois on demande des exercices, c'est pas forcément évident de les mettre en place, donc ils ont besoin qu'on les regarde et qu'on leur explique pour bien faire. À vélo, je les accompagne pas forcément parce qu'on n'a pas le même rythme, parce que j'ai pas forcément le temps d'aller faire des grosses sorties à vélo, donc
Oui, puis si tu dois accompagner chacun des athlètes que t'accompagnes sur leurs sorties longues, ça fait beaucoup pour toi, j'imagine, à la fin de la semaine.
Bah c'est ça, en ce moment mes ultra trailers ils tournent entre 4 et 5 heures de rando trail le dimanche. Ben j'ai envie de vous dire c'est long quoi, j'ai pas que ça à faire quoi. Donc du coup je les accompagne pas à vélo.
Non, puis la partie natation c'est quand même je pense la partie la plus technique dans le triathlon. On est assez facilement en autonomie sur vélo et sur la course à pied où on sait assez facilement lire un programme, enfin je veux dire quand en course à pied on te dit tu fais 15 km à 4,30 au kilo. Bon, à moins que t'aies pas l'allure dans les jambes, mais surtout avec les montres maintenant, c'est assez facile. Par contre, en natation, quand on te dit tu fais des éduques, doigts tendus, coups de levée, etc., t'as souvent besoin d'avoir quelqu'un qui va t'expliquer comment ça marche.
Course à pied, en début de saison, et même en vélo, en début de saison, on remet toujours les bons vieux éduques, pédaler rond, jambe droite, jambe jambe gauche, machin, à pied, voilà, les la PPG, etc. Donc là, en général, je refais toujours quand même des petites séances avec eux, de manière à voir un peu la souplesse, voir le rebondi, etc.
Donc ça, c'est ta première deuxième vie où tu as fait une formation de coach et tu exerces. Ce serait intéressant de savoir à quel moment tu t'es décidé aussi à continuer encore tes études pour embrayer sur une formation de micronutritionniste.
Eh bien, au départ, ma reconversion, c'était ça. C'était, je voulais faire quelque chose dans la nutrition, je savais pas comment. C'était ça. Je voulais y associer bien sûr le sport, mais l'objectif premier, c'était de bosser dans quelque chose qui touchait à la nutrition. Et pendant longtemps, je savais pas qu'est-ce que j'aimais dans la nutrition. J'expliquais à mon mari, je veux connaître la chimie. Mon mari me dit oui, mais la chimie, écoute, il faut que tu réfléchisses. Et en fait, il existe donc différentes branches dans la nutrition, hein, et la micronutrition, c'est la chimie. En fait, c'est clairement, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que je voulais comprendre. On a les macromolécules, les lipides, les glucides et les protéines, hein, et on a les micromolécules. Et c'est les micromolécules qui, par synergie, vont faire des réactions chimiques dans le corps et qui vont induire telle ou telle chose au niveau métabolique. Et en fait, quand j'ai découvert la micronutrition, ça a été une révélation. J'ai dit, bah oui, c'est ça que je veux faire. C'est exactement ça. Et quand on prend le triathlète par exemple, hein, donc il y a un sportif assez accompli en général, il se passe plein de choses au niveau chimique. On a plein de besoins. C'est comme un vélo en fait. Imaginez un vélo. Je vous dis, vous allez faire aujourd'hui une sortie de 100 km et je vous donne un vélo pas forcément réglé, les vitesses elles passent pas forcément bien, voilà, bon bah au niveau du guidon, c'est pas forcément top, il est un peu grand, etc. Les 100 bornes, vous allez quand même les faire. Par contre, si je vous dis, je vous donne le vélo hyper bien réglé, on a tout ce qu'il faut, il est super réglé, etc., vous allez faire les 100 bornes et vous serez moins fatigué, vous aurez moins de douleurs, ça va être beaucoup plus fluide. Eh ben, la micronutrition chez le sportif, c'est ça. C'est clairement une fluidité en fait qui se passe au niveau métabolique et qui de ce fait va accompagner la performance. Ça avait donc un écho. Ça avait donc un écho pour moi de le faire.
Toi, tu n'avais pas de background scientifique à la base.
Non, pas du tout.
Et là, c'est de la chimie, c'est de la biochimie. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez technique finalement.
Et alors du coup, en parallèle de ma formation, j'ai repassé mon bac S.
D'accord, ok.
Donc du coup, j'ai fréquenté l'UFR MIM à Metz pendant un an. J'ai repassé mon bac S parce que déjà je l'avais pas eu, et qu'en plus de ça, il y avait un écho fondamental sur les bases de la biochimie, de la physio au niveau de la SVT, ne serait-ce que des maths, hein, qui m'ont permis de réfléchir un petit peu différemment. Donc j'ai fait ça en même temps, et ça m'a permis de comprendre 10 fois mieux que si je l'avais pas fait.
Waouh. tu remarqueras le blanc, ça veut dire que là on sait plus quoi
dire. Pas forcément envie de le dire, hein, mais voilà, je l'ai dit.
Peut-être pour finir cette semaine de podcast, demain on reviendra justement sur la formation de micronutritionniste, ce qu'elle t'apporte déjà à toi personnellement, puis ce que tu t'attends qu'elle apporte à tes athlètes dans leur recherche de performance, puisque tu nous as dit que c'était comme un vélo bien réglé, ça aidait justement à ce que la performance soit beaucoup plus fluide.
Exactement.
Eh bien, à demain, Sandra.
À demain.
À demain, Olivier.
À demain.
Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs! Mais qui est toujours là. Salut Olivier.
Salut Olivier.
Salut Olivier, ouais. Je me présente moi-même.
Elle est belle celle-là. Désolé, ça fera un peu de montage. Salut Romano.
Et pour terminer la semaine, enfin pour continuer notre semaine, notre invitée Sandra Zeffer. Sandra, salut Sandra. Ah, c'est difficile l'intro aujourd'hui. On mettra ça dans le bonus quand on fourche un peu. Sandra,